23 décembre. Comme je rentrais à la fin de l'après-midi, la concierge m'appela et me remit un billet. Je reconnus l'écriture de la femme de chambre de Curti. Celle-ci m'annonçait que son maître voulait absolument me voir. Je me hâtai donc vers l'avenue de la Grande Armée. Alors qu'au cours de ma visite de la veille, tout avait paru se dérouler normalement, je flairai, en arrivant, une atmosphère de malheur. Sous le porche, je croisai un homme qui se mit à courir. En passant devant la loge de la concierge, je vis, bien qu'il fût l'heure de dîner, cette dernière qui parlait à plusieurs personnes. Au premier étage, où demeure Curti, je trouvai fixé à la porte un petit papier sur lequel était écrit de la même écriture que le mot que l'on m'avait remis « Entrée SVP sans bruit ». Je craignais que Curti ne fût déjà mort. Dans le vestibule, il n'y avait personne. Trois ou quatre par-dessus pendaient au porte-manteau. Sur la porte vitrée du salon, des ombres se mouvaient. Des chuchotements venaient jusqu'à mes oreilles. J'entrouvris cette porte et j'aperçus dans un groupe d'hommes Sospel. Tous détournèrent la tête et me dévisagèrent avec gravité. À peine me fus-je glissé dans le salon que la conversation reprit. Je me dirigeai vers Sospel, le seul de ces visiteurs que je connusse. Lorsque je me trouvai derrière lui, je le touchai au bras pour attirer son attention, puisque je ne pouvais me placer ni à côté ni en face de lui à cause des gens qui l'entouraient. Il simula un mouvement de surprise, puis, se détournant aussitôt, se remit à écouter son voisin. Au risque de passer pour un insensible, préoccupé de lui-même au moment où se joue la vie d'un homme, je dois dire que cette attitude me parut bizarre. J'eus l'impression que Sospel, pour que la situation fût plus exceptionnelle encore, voulait, sans aucune raison, me témoigner de l'antipathie. En d'autres circonstances, jamais il n'eût agi ainsi. On sentait que, sous le couvert du drame qui se précipitait dans une pièce voisine, soit pour se donner de l'importance, soit pour me montrer à quel point il était ému, il feignait d'ignorer ma présence. À ce moment, une porte s'ouvrit et le docteur Mariage parut. Aussitôt, le plus jeune d'entre nous s'avança vers lui. Ils échangèrent quelques mots, puis sortirent ensemble. Je m'empressai de prendre la place libre, de peur que le groupe ne se refermât. Sospel, alors, daigna m'adresser la parole. « Curti est perdu !» dit-il sans la moindre émotion, cependant que mon voisin de droite, un petit homme mal vêtu, le nez chevauché d'un binocle, un petit homme dont je ne m'expliquais pas la présence, hochait la tête. Cette affirmation me bouleversa, bien que je me fusse déjà douté de la vérité. En faisant une nouvelle apparition, le docteur Mariage interrompit Sospel. Toujours à voix basse, il nous demanda s'il n'y avait pas parmi nous un monsieur Grandeville, c'est-à-dire moi-même, et cela, bien qu'il m'eût aperçu et qu'il dût se souvenir que nous avions été présentés l'un à l'autre la veille. Je marchai à lui. « Je voudrais vous parler, » continua-t-il. Je le suivis. Après avoir traversé deux pièces qui me parurent immenses, je pénétrai dans la chambre de Curti. Je l'aperçus tout de suite. Il semblait dormir. Un désordre indescriptible régnait autour de lui. La garde cherchait une prise de courant pour un appareil étincelant de diathermie. Des linges, des flacons traînaient partout. Alors que je croyais avoir tout embrassé, je remarquai tout à coup, près d'une fenêtre, un homme qui écrivait, se servant d'un calorifère pour appui. J'étais accablé. Dans cette atmosphère de mort, j'avais le sentiment que ce n'était pas un ami que je représentais, mais une sorte d'automate. Chaque fois que je suis entré dans la chambre d'un moribond, j'ai toujours éprouvé un sentiment semblable. Il m'apportait comme un soulagement. Ce besoin de n'être plus rien pour ceux qui vont mourir est invincible. C'est l'instinct de la bête bien portante qui fuit celle qui meurt. Mais je me fis violence, tant cela m'apparaissait bas. Brusquement, je me trouvai au chevet de Curti. « Dites-lui qui vous êtes !» fit sèchement le docteur Mariage, qui ne voulait absolument pas de moi. Je prononçai mon nom doucement. Mais Curti ne remua pas. Il sortait d'une syncope. Il respirait régulièrement. Tout son être semblait soulagé et on avait l'impression que c'était parce qu'il allait mieux qu'il n'ouvrait pas les yeux. Je n'osais répéter mon nom. Le docteur Mariage lui prit la main et, se souvenant enfin de moi, m'annonça. votre ami Grandeville, l'ami que vous avez reçu hier. » Alors les paupières de Curtis se levèrent, mais au lieu de dévoiler un regard familier, ce fut un inconnu qui se présenta à moi. Complété par ce regard, le visage s'était transformé. Il était amaigri, sans aucune des expressions que je lui connaissais. Ses yeux, qui, la veille, m'avaient paru jaunis, ternes, étaient d'une vie extraordinaire. Pourtant, il ne me voyait pas. Il ne me voyait pas, mais Curtis me voyait. « Je suis content que vous soyez venu. Vous êtes seul ?»« Où est Madeleine ?» balbutia-t-il. « Je voudrais voir Madeleine. Dites-lui de venir vite. Je voudrais vous voir tous les deux, ensemble. Promettez-moi encore de veiller sur elle, de la défendre dans la vie. Je ne pourrai bientôt plus le faire. » Il s'interrompit brusquement, chercha des yeux le docteur, puis demanda avec un calme imprévu « Alice n'est pas encore là ? Comment cela se fait-il ? » Cette question me surprit. Qui était Alice ? Mais je n'eus pas le temps de réfléchir davantage, de nouveau Curtis s'adressait à moi. « Louis, je vous en supplie, promettez-moi de ne jamais abandonner ma fille, de l'aimer toujours, de me remplacer auprès d'elle. Je vous demande de l'aimer plus que son père ne l'a aimé. Je n'ai pas fait ce que j'aurais dû. C'est pour cela qu'elle n'est pas venue, n'est-ce pas ? Elle me garde rancune. » Le malade commençait à divaguer. « Non, je n'ai pas fait tout ce qui était en mon pouvoir. Au lieu de vivre comme si j'étais éternel, j'aurais dû penser à elle, travailler pour elle, songer qu'un jour je ne serai plus là pour la défendre. J'ai été content qu'elle se marie avec vous, alors que je savais qu'elle en souffrait. Voilà l'homme que je suis. » Cette scène était tellement tragique que cette preuve de mon infortune et le sentiment que j'avais et que Curtis lui-même regrettait qu'elle m'eût épousé ne me causèrent aucune douleur. Au contraire, je vis dans les paroles de Curtis une certaine grandeur, même s'il ne pouvait faire autrement que de reporter à présent tout son espoir sur l'homme qu'il avait jugé si peu digne de devenir son gendre. Je m'excusai pour aller téléphoner à Madeleine au bureau. Comme j'attendais la communication, j'entendis Curtis qui continuait à me parler, comme si j'étais restée auprès de lui, cependant que le docteur s'efforçait de le calmer. « Madeleine va venir dans un instant », lui annonçai-je en revenant. Il demeura muet. On eût dit qu'il avait confondu mon retour avec mon départ. Je parlais encore pour qu'il n'y eût pas de silence, mais Curtis s'était de nouveau assoupi. Je m'éloignai et me mis à m'entretenir doucement avec l'assistant du docteur. La nouvelle de la maladie de Curtis s'était répandue. Des portes s'ouvraient, se refermaient. On sentait que l'appartement de cet homme sans famille, sans amis, était devenu comme un lieu public. Puisque Curtis reposait, je n'avais plus de raison de rester là, j'eusse dû passer dans le salon. Les hommes que j'avais vus en arrivant attendaient sans doute avec impatience mon retour, me semblait-il, afin de pouvoir prendre ma place. Mais la pensée que j'étais, avec Madeleine, un de ses plus proches parents, me fit rester. Bien que cet appartement regorgeât de monde, tout était silencieux. Seuls des bruits imperceptibles rôdaient autour de nous. Le médecin regarda l'heure, je la lui demandai d'un geste de la tête. « 7 heures, répondit-il d'une voix normale, comme si les minutes n'avaient plus d'importance. À cet instant, une porte s'ouvrit et Sospel parut. Il s'approcha du médecin sans même jeter un regard sur le lit où somnolait son vieil ami. Ils échangèrent quelques paroles à voix basse, puis Sospel sortit par une issue donnant sur un couloir qui conduisait au vestibule. Un claquement de porte vint alors jusqu'à moi. Je m'étonnai que Sospel pût être insensible au point de faire tant de bruit au moment où Curtis reposait, lorsqu'une femme jeune entra dans la chambre, accompagnée du petit homme dont j'ai déjà parlé. J'examinai attentivement ce couple. L'homme avait l'allure d'un employé ayant des droits à faire valoir. À peine arrivés, les nouveaux venus fixèrent longuement du regard le malade et, je ne sais si je ne me trompe, mais j'eus l'impression qu'ils désiraient que Curtis les vît. comme les amis d'un grand homme si celui-ci meurt, comme l'amant d'une jeune fille si cette dernière meurt, on sentait que, plus que nous tous, ils appréhendaient une issue fatale. Nous restâmes ainsi plusieurs minutes sans parler. À chaque seconde, j'espérais voir paraître Madeleine. Soudain, avec le calme de celui qui s'éveille tard dans la matinée, Curti ouvrit les yeux. Mais il les referma aussitôt, poussa un râle et finalement se mit sur son séant. Le docteur voulut l'obliger à s'étendre. Mais il refusa. « Je vais mieux, je sens que je vais pouvoir me lever, » dit-il rapidement. Profitant de ses protestations de condamné, la femme qui devait répondre au nom d'Alice s'approcha du lit et, sans s'agenouiller, sans s'asseoir, dominant de toute sa hauteur le malade, le regarda avec la volonté de paraître pitoyable. Mais, en dépit de ce souci, une profonde répulsion, à laquelle s'ajoutait cette expression désagréable de ceux qui, à travers un silence prudent, semblent dire « Je suis là », en laidissait ses traits. Curti la dévisagea avec acharnement. Puis, subitement, il se souvint d'elle. Un tremblement agita ses mains. La garde s'approcha pour les recouvrir, mais elle n'y parvint pas. Se dégageant définitivement d'un mouvement brusque, le malade l'éleva, toujours en tremblant, vers la jeune femme qui n'avait pas bougé et vers qui son compagnon s'était avancé dans un geste à la fois protecteur et accablé. « Alice, mon Alice chérie !» balbutia-t-il. À ce moment, le parent ou l'ami de cet inconnu se tourna vers moi, puis vers le docteur, avec le désir visible de nous montrer que nous étions de trop. « Alice ! Alice !» répéta Curti en essayant de prendre les mains de cette femme, mais sans y réussir, car chaque fois qu'il les tenait, il les lâchait aussitôt pour les chercher ailleurs. Alors la vérité m'apparut, Curti avait une maîtresse. De l'apprendre ainsi, de voir que cette liaison, qui avait été si bien dissimulée, éclatait maintenant aux yeux de tous, sans que les intéressés songeassent même à la cacher, me fit paraître cette fin plus tragique. La mort d'un homme est déjà quelque chose d'effroyable en soi. Mais quand cette mort découvre le mystère de la vie passée, quand une foule d'exigences, de menaces, d'adjurations surgissent autour du lit du moribond, qui n'a plus la force ni de se défendre, ni de se donner, c'est alors qu'on sent combien peu de choses est tout ce qui fait la joie et la peine. Les secrets disparaissent et personne ne songe à reprocher quoi que ce soit à celui qui est parti pour toujours. Plus rien ne reste que la misérable fragilité de nos êtres. Et la révélation de cet amour, qui, une semaine plus tôt, m'eût transporté de stupeur, me semblait sans importance. J'eusse appris les choses les plus belles ou les plus abominables sur Curti, qu'elles eussent glissé sur moi. « Alice ! Alice ! » continua-t-il de balbutier, d'une voix de plus en plus faible, sans que cette femme, soit timidité, soit effroi ou indifférence, songeât à manifester la moindre tendresse à ce moribond qui s'accrochait à elle comme l'être le plus précieux du monde. On avait l'impression que ce n'était pas la vie qu'il quittait, mais Alice, cette fille commune et qui semblait là par corvée. Cela me brisait le cœur que cet homme fût arrivé sur la fin de ses jours sans autre amour que celui qu'il avait pour cette étrangère. Soudain, ses mains retombèrent. Il resta un instant à souffler, cependant que sa maîtresse l'épiait. Puis il se redressa et après avoir longuement regardé autour de lui, il m'appela. Je m'approchai. Il se passa alors ceci d'incroyable. Au lieu de se déranger pour me permettre d'atteindre le malade, cette femme qui, depuis qu'elle était arrivée, n'avait pas eu un geste d'amour ni un mot venant du cœur, ne bougea pas. « Louis, murmura Curti, allez dans mon bureau. Vous prendrez dans mon tiroir du secrétaire un papier. Vous me le donnerez. » J'obéis. Quand je revins, il s'était affalé. Mes yeux rencontrèrent alors ceux de la jeune femme et de son compagnon. Il ne me quittait pas, sans pourtant oser descendre jusqu'à l'enveloppe que je tenais à la main. Tout cela était d'une telle mesquinerie que, sans attendre que le malade revînt à lui, je posai le papier sur le lit. Au même moment, la porte s'ouvrit et le docteur disparut en même temps que Sospel entra. Il venait à peine de faire quelques pas que Curtis sortit de sa torpeur. « Louis !» dit-il tout de suite sans même me chercher des yeux. « Le papier est près de vous, » dis-je avec brusquerie, tellement l'attitude de cette femme me déplaisait. « Donnez-le-moi !» me demanda Curtis, qui était incapable de saisir quoi que ce fût et qui avait posé ses mains dessus. Alice ne bougea pas contre mon attente. J'avais pensé que, se trouvant près du malade, elle le lui donnerait elle-même. Mais, demeurant immobile, elle voulait montrer qu'elle n'y aurait été pour rien si Curtis lui remettait. Avant que j'eusse eu le temps d'obéir, la garde glissa ce papier entre les doigts du malade. Alors, transfiguré, comme s'il faisait l'acte le plus important de sa vie, il le tendit avec saccade à Alice. Un instant, elle hésita à avancer sa main, puis brusquement le prit, le plia, le passa à son compagnon, qui, aussitôt, l'enfouit dans une de ses poches. Tout de suite après cette scène, Sospel s'éclipsa de nouveau, et je ne pus m'empêcher de trouver bizarre l'attitude de cet homme qui entrait et sortait continuellement sans dire un mot. « Soyez heureuse, Alice, » dit Curtis péniblement. « Vous avez été mon seul bonheur. Tout ce que j'ai pu faire, je l'ai fait pour vous. Louis, venez. Où est Madeleine? Vous la défendrez, puisque je n'ai pu rien faire pour elle. Où est-elle ?» Ces dernières paroles me plongèrent dans l'étonnement. Voilà où on en arrive quand on n'est pas préparé à mourir et que la mort nous surprend, pensais-je. Cet homme qui, jusqu'alors, m'avait paru la conscience même, maintenant qu'il était sans force, prêt à mourir, me semblait veul et faible. Hier encore, je croyais qu'il n'avait qu'un amour, sa fille. Au lieu de m'ouvrir son cœur, il a tout caché jusqu'au dernier moment. Par faiblesse, il en est réduit à faire d'un homme qu'il n'a jamais aimé le protecteur de ce qu'il a de plus cher au monde, Madeleine. Maintenant qu'il va disparaître à tout jamais, c'est sur celui justement qu'il a le plus méprisé qu'il doit compter pour veiller sur son enfant. Parce qu'il se reposait sur moi, il n'a pas songé à assurer la vie de sa fille. Il s'est servi de moi comme d'une relation qu'on haïrait au fond de soi-même et de laquelle on n'aurait aucun scrupule à tirer tous les avantages possibles. Il m'a fait en quelque sorte son associé. Il s'est dit « Louis se chargera de Madeleine et moi d'Alice ». Et lorsque, par la venue de celle-ci, tout s'est dévoilé, il a compris son indignité paternelle et n'a plus eu qu'une pensée « que je ne me dérobe pas ». Il s'est vu à ma merci et c'est son châtiment. Et c'est ce qui rend cette fin si tragique. En le regardant partir, il m'est apparu que c'est surtout le fait de laisser derrière soi, sans situations enchevêtrées, des amis qui attendent les promesses qu'ils croient que le moribond pourra tenir, qui rend si pénible une agonie. Heureux ceux qui ont songé à la mort, qui l'ont attendue et qui ne laissent derrière eux qu'une vie sans tâche. Mais les autres, qu'il doit leur être douloureux de partir, lorsqu'impuissants sur le lit de mort, ils voient s'avancer vers eux des gens qui se haïssent, des gens qu'ils laissent sans ressources, des gens ayant appris qu'ils n'étaient pas seuls à être aimés. Ils sont alors incapables de donner toutes les raisons de ces complications. À mesure que leur force décline, leurs rouages se montrent au grand jour, toute leur intimité apparaît, et bientôt il ne reste plus d'eux qu'une dépouille. À côté de M. Curtis, après cette scène, j'avais cette impression de nudité. Plus rien ne demeurait de l'homme qui organise sa vie, la cache. C'était déjà un mort. Et pendant que je le regardais ainsi, avec une immense pitié et une immense tristesse, Madeleine est arrivée. À la vue de tout ce monde, elle comprit immédiatement ce qui se passait. Alors, comme une folle, elle se jeta au pied du lit et se mit à sangloter. À ce moment seulement, M. Curtis l'aperçut et, péniblement, il posa sa main sur la tête de son enfant. Elle leva les yeux. Elle ne savait rien et son père était encore pour elle le seul être vivant qu'il aima par-dessus tout et vers qui, lorsque l'avenir l'épouvantait, elle se tournait avec soulagement. En phrases hachées, comme s'il pouvait la comprendre, elle lui parla. « Qu'est-ce qu'il y a, père ? Réponds-moi ! Je t'en supplie, dis-moi quelque chose !» Alice s'était écartée et observait cette scène avec une indifférence apparente. M. Curtis, lui, ne reconnaissait déjà plus personne. Il s'efforçait cependant d'être digne pour maintenir sans doute, par le seul moyen qui lui restait, le monde qui l'entourait à la même distance qu'avant. 27 décembre. Depuis la mort de son père, Madeleine ne m'a adressé qu'à 3 ou 4 reprises la parole. Elle n'a, pour ainsi dire, pas cessé de pleurer. Aujourd'hui, pour la première fois, elle a semblé comprendre ce qui s'était passé. Elle m'a demandé qui était la femme qui se trouvait au chevet de M. Curtis. « Une amie à laquelle ton père tenait beaucoup, » ai-je répondu. J'appréhendais de lui apprendre que celui-ci avait légué tout ce que la loi lui permettait de léguer à cette étrangère. Pourtant, afin de ne pas trop différer de l'en avertir, je le lui annonçai. À ma grande surprise, elle ne parut pas s'en attrister. 1er janvier. J'ai pensé longuement à Madeleine. Je devrais pourtant considérer qu'elle n'a plus aucune affection. Moi seul puis la comprendre, l'excuser, la protéger. Au lieu de le faire, je me conduis comme n'importe quel homme avec n'importe quelle femme. Je m'acharne sur elle qui est sans défense, moi le plus fort. J'éprouve le sentiment d'agir bassement et pourtant je ne réussis pas à me contenir. Le remords me poursuit alors. Je voudrais lui demander pardon, mais une telle dérogation à mes habitudes la surprendrait plus qu'elle ne la toucherait. Je suis donc condamné à la faire souffrir sans possibilité d'agir autrement. Il est des moments où je cherche quelle preuve lui donner de mon amour. Ainsi, aujourd'hui, pour essayer de lui apporter quelque réconfort, lui ai-je parlé de l'avenir avec la plus grande confiance. Je lui ai dit que nous traversions une mauvaise période, mais que nous étions jeunes et qu'un jour viendrait où nous serions l'un et l'autre heureux. Elle me regarda alors avec une antipathie tellement sincère que j'en fus horriblement peiné. Tout en elle criait que je ne savais pas ce que je disais, que j'étais un pauvre fou, sans suite dans les idées. Quand on parle du lendemain, elle s'imagine qu'une arrière-pensée vous guide. L'avenir, pour elle, comme pour les jeunes gens, c'est ce qui se passera hors du monde qui nous est familier. C'est un Élysée où elle seule entrera et elle trouve sans doute outrecuidant de ma part de m'y réserver une place. Faut-il, doit-elle penser, que je sois loin d'elle pour ne plus attendre de joie dans la vie que de ceux que je possède déjà? Pourtant, quelle preuve plus grande d'attachement pourrais-je lui donner? J'ai décidé que jamais plus je ne lui parlerai de l'avenir, et pourtant, que deviendra-t-elle lorsqu'elle m'aura perdue, lorsque, abandonnée dans le monde, elle devra se défendre, sans expérience contre toutes les avances, toutes les propositions, dont elle ne soupçonnera même pas les mobiles intéressés, auxquels elle croira de toute la force de sa jeunesse? Le jour où elle me donnera raison, où elle découvrira l'amour que j'avais pour elle, il sera trop tard. Elle aura appartenu à je ne sais combien d'hommes. À chacun d'eux, elle aura laissé un peu d'elle-même. J'imagine alors sa vie sans affection, sans foyer, sans argent peut-être. Comme elle souffrira, ma pauvre Madeleine, d'être vieille, de n'avoir pas les moyens de cacher ses rides sous la richesse, de n'avoir plus auprès d'elle le témoin de sa beauté, pour n'être pas seule à la regretter. Je la vois devenue soigneuse de son bien, elle qui, aujourd'hui, le dédaigne. Je la vois tenir à tout ce qu'elle possède, ne pas oser mettre une robe neuve de peur de l'abîmer. Elle ne supportera plus aucune contrariété. La petite cuisine, où elle préparera elle-même ses repas, sera d'une propreté extraordinaire. Quelque chose de la femme légère, de la femme livrée à elle-même, se développera en elle. Jusqu'à présent, j'ai tout fait pour combattre ce penchant qui, chez toute femme dont aucun homme n'emplit la vie, finit par l'emporter. Un jour que nous étions sortis avec Hélène, celle-ci nous dit brusquement, en nous montrant un passant. « Tenez, regardez le monsieur qui marche là-bas, c'est mon ami !» Et Madeleine, pleine de zèle, se transforma en conseillère. « Allez-y, allez-y, Hélène, ne vous gênez pas pour nous, nous vous attendrons !» N'était-ce pas déjà un présage, cette espèce de complicité des femmes entre elles, qui est si laide, qui est si commune, moi seule l'empêche de s'affirmer. Oui, je la vois encore, alors qu'à présent elle ne soucie de rien, découvrir des adresses, chercher à se vêtir à bon compte, disputer avec les vendeuses, vivre enfin mesquinement. Elle qui n'aime pas les femmes, qui ne se gêne pas pour leur tourner le dos, je la vois se dominer, s'efforcer de ne plus froisser personne, tâcher de se rendre semblable à tout le monde. Que restera-t-il de celle que j'ai connue? Toute sa fraîcheur, toute son innocence, toutes ses qualités extraordinaires auront disparu. Elle sera devenue une pauvre femme sans amour, aigrie, entourée de bibelots coquets. On sentira qu'elle a été déçue. Pourtant, aujourd'hui, il n'est pas trop tard. Les coups portés à notre union ont été légers. Qu'elle consente à demeurer à mon côté et aucun des maux que je redoute pour elle ne l'atteindra. Mais elle ignore jusqu'à l'existence de ces maux. Si je les lui dépeignais, elle ne comprendrait pas. Elle se figure au contraire que c'est près de moi qu'elle vit petitement. Que pouvons-nous quand l'être que nous aimons se refuse à admettre notre expérience? Il nous reste l'espoir qu'il patientera, qu'il n'aura pas le courage de rompre, qu'il se fera lentement à nous. Le calvaire ne sera qu'illusoire et vaudra mieux que la médiocrité morale. C'est pour cela que j'évite une explication. Si je disais à Madeleine « Tu es libre, je subviendrai à tes dépenses et tu pourras t'amuser et faire ce qui te plaît », elle accepterait avec joie, tout en renonçant, je crois, à mon aide matérielle. Mais je ne dois pas le faire, devrait-elle souffrir de mon inertie. En ma compagnie, elle est quand même à l'abri. Mais lorsque je ne veillerai plus sur elle, qu'arrivera-t-il? Son père avait bien discerné le danger quand, avant de mourir, il me supplia de ne jamais l'abandonner.